Vous écoutez RMC. RMC.
Je sais que vous avez plein la bouche de Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain.
T'arrives demain, tu vas mettre rouge et bleu, t'es PSG, c'est tout. On est des professionnels. Il faut réaliser la 2012. Wow, c'est du business. Wow.
Merci beaucoup pour vous aussi, RMC. Vous êtes là avec nous. Je vous remercie, vous aussi.
RMC, jusqu'à 12h30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à 12h30, comme tous les soirs en direct. En direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After. L'After, toujours première radio de France le soir. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Ligue des Champions, donc, Emmanuel Petit est avec nous. Manu, bonsoir.
Bonsoir messieurs dames.
Et ce soir, puisque les Diaz sont souvent bons au football, Kevin Diaz est avec nous. Salut Kevin.
Salut à tous. Quand t'as dit Ligue des Champions, je croyais que tu parlais pour moi.
Est-ce que après minuit, quand ça sera un peu calmé, qu'on sera retombé de cet engouement de cette soirée folie, on pourra faire une petite liste des Diaz bons au foot?
Très bien.
Hommage à Kevin.
On pourra la faire.
Au premier qui craque avec Manu. Allez.
Jean-Louis Tour est également avec nous au stade, au Parc des Princes. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Ah, il arrive encore. Salut à parler.
32-16, on vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After 06-12-424-424. Le PSG bat le Bayern 5-4. On a vu un match extraordinaire ce soir. Et comme vous êtes 3, on ne fait pas 3 points, mais 2 points. Jingle 3 points qui va se transformer en 2.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Manu, tes 2 points.
Ce match d'anthologie exceptionnel pour tous les amoureux du football, c'était la finale avant l'heure, on allait en confirmation. C'est vraiment dommage que ce match n'ait pas eu lieu en finale, parce que ça aurait été une finale d'anthologie également. Donc je me suis régalé du début à la fin, un vrai combat de boxe en fait, coup pour coup. Mon deuxième point, c'est Varache Kelia, encore une fois, il est phénoménal. C'est lui qui arrive toujours à tirer le PSG vers le haut. Depuis qu'il est arrivé, il a transformé cette équipe. Et il ne fait que confirmer au plus haut niveau l'importance de ce joueur. Dommage qu'il ne puisse pas participer à la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, bon, tout le monde jetait son regard, son évolu sur Olise. J'avais dit avant le match, faites attention quand même à Diaz, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et Diaz a été phénoménal.
Daniel.
Pas le point, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le match des superlatifs. Chacun choisira le sien pour qualifier ce match qui restera dans les mémoires. Évidemment, c'est pas un match retour, hein, donc il n'y a pas eu de coup près qui est tombé, mais bon, on a surkiffé ce match. Et dans le point 2, j'expliquerai pourquoi face à deux collectifs absolument fabuleux. Pour moi, c'est un match d'individualité. C'est ça qui a rendu ce match absolument extraordinaire, c'est que les individualités ont été fantastiques dans ce match.
Kevin.
Le premier point, c'est que je pense que j'ai vu le plus beau match des dix dernières années. Avec,
t'étais 20 ans tout à l'heure.
Ouais, mais il a réduit parce qu'il s'est dit, j'ai peut-être une connerie.
En fait, à la 40e, j'avais dit à Manu que ça allait être le.
Ah, il est au moins 3-4 fois.
Ouais, je lui ai dit. Et ce sera mon deuxième point.
On a commencé à lui faire la liste des grands matchs de Coupe d'Europe.
Non.
Les matchs
vas-y, Kevin.
On en reparlera.
Mais en plus, ça sert à rien de faire des classements.
Si, parce que mon deuxième point, c'est que non seulement il y a des individualités, mais il y a aussi, pour moi, une justesse dans les passes, dans les sorties de balles, dans les transmissions. Je viens de regarder.
C'est parce que tu as des joueurs techniques.
Il y a plus de 80% de passes réussies sur le match, je l'avais dit à Manu. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de déchets. Alors oui, les attaques ont pris le pas sur les défenses, mais quel match.
Bon, on a un
compte. Beautiful game.
Alors, 10 dernières années, je sais pas, mais enfin, on peut au moins dire qu'on a vu le match de l'année, là, cette saison, extraordinaire.
Honnêtement,
renversement de situation, geste technique.
Ça a été complètement fou. On a vu à un moment le PSG, j'ai cru qu'ils allaient en coller une sévère
de ratée. Pour le football au moment où il est en recul.
À 5-2, alors qu'il restait du temps et que le Bayern avait l'impression d'être en petite mort à ce moment-là. Leur réaction a été fantastique et. Je sais même pas comment qualifier ce match. J'ai parlé des individualités. Je trouve que tous les joueurs offensifs ont fait un super match.
Vara
a été le facteur X du PSG.
Compagnie avait le bon mot hier. Il a dit hier, Compagnie, sera un match brutal.
Ouais, j'ai bien aimé.
Il a dit aussi que ce serait un orage. Et en fait, c'est exactement ce qu'a été ce match. Deux gros nuages qui se rencontrent et il y a la grêle qui tombe. Et la grêle, c'était les buts. Parce qu'aujourd'hui, que tu vois la qualité des attaquants, mais aussi les transmissions, les dernières passes, t'avais vraiment une espèce de, un vrai orage, un orage footballistique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Vincent Compagnie.
Quand tu regardes un match, tu dis, tiens, un tel, il a été bon ou il a pas été bon. Et là, en fait, si tu avais autant de buts, c'est que, Olise a été très bon, Kane a été très bon. Luis Diaz a été très bon, Kimmich a été bon. C'est-à-dire que ceux qui faisaient les passes, ceux qui les recevaient, étaient bons. Alors je sais pas, on peut s'amuser à dire quel est le but le plus beau ce soir dans la construction, mais il y en a plein qui ont été fantastiques. Les phases de transition du PSG ont été enthousiasmantes, j'imagine, pour le public du parc. Tu vois cette vague arriver, le but de Guevara. Alors je suis perdu, le ballon qui vient d'Hakimi du côté droit. Bon bref, la frappe entrée de surface.
Ça c'est le
cette
4-2.
Action là, c'est une vague offensive extraordinaire. Et puis en revanche, la passe, le contrôle de Luis Diaz quand il enrume Marquinhos, ça aussi, c'est une passe fantastique, un contrôle et une conclusion.
Donc même l'appel est
exceptionnel. Ceux qui donnaient les ballons ont été bons, ceux qui les recevaient les exploitaient bien. Alors on pourrait faire la fine bouche à parler de 2-3 actions qui n'ont pas été totalement bien menées. Mais quand t'as 5-4, tu fais pas la fine bouche. Tu t'es juste régalé. À un moment, j'étais presque en saturation d'esthétisme. Tu sais, on dit qu'il y a certaines personnes dans le monde, souvent quand elles vont dans des villes comme Paris et tout, je crois qu'on disait ça de je ne sais plus quel pays asiatique, quand ils venaient à Paris, ils avaient une espèce de, comment on appelle le syndrome de quand tu vois trop de choses belles, t'es un peu saturé.
Pour les jeunes, tu te choques.
Limite,
le syndrome des auditeurs de
l'after. C'est un concept, ça. Bon, bref, je vais vous le retrouver, je vais vous l'expliquer, c'est un concept hyper intéressant. Okay. Et bien là, à un moment, j'étais là, je disais, mais c'est trop, en fait, c'est presque trop. C'est trop ce que tu vois, les passes, les centres, tout était parfait. C'était incroyable, quoi. On en oublie même le score. J'imagine, t'es neutre ce soir, ah oui, c'est vrai, c'est le PSG qui a gagné. Ah oui, c'est le PSG qui a gagné. Évidemment, les supporters,
c'est le foot qui a gagné. J'ai envie de dire, c'est le football qui a gagné.
Mais le PSG, les supporters du PSG, évidemment, c'est le football. Ils sont déjà en train de se dire, ouais, on a un but d'avance, machin. Mais si tu regardes.
Attends, va pas trop loin.
Et là, tu te dis, mais presque le résultat, tu t'en fous.
On a plein de choses à dire sur le match. Alors, Jean-Louis.
Je vais chercher le syndrome de.
Toi qui as eu la chance d'être au stade ce soir, est-ce que c'est le match le plus étonnant, somptueux que tu aies vu ces 10 dernières années au stade?
Oui, clairement, oui. Oui, bien sûr. On peut mettre la finale de la Coupe du Monde un peu sur le même truc.
Fantastique aussi, oui.
Voilà. Parce qu'en plus, il y avait l'émotion d'une finale de Coupe du Monde. Mais là, honnêtement,
il y a eu beaucoup d'émotion.
Moi, j'ai l'impression d'avoir vu Tyson Holyfield et d'avoir été au milieu du ring à me prendre les droites dans la gueule de à gauche à droite. Donc déjà, j'avais jamais vu ça. L'autre truc, c'est que moi, le foot moderne, honnêtement, il y a plein de trucs dans le foot moderne qui nous plaisent pas. On le dit régulièrement, la multiplication des matchs, il y en a trop, etc. Mais si, dans ce foot moderne, la conclusion, c'est qu'à la fin de la saison, on a ce match-là, bah ok, moi je suis d'accord pour faire la phase de ligue interminable avec des matchs qui servent pas à grand-chose, etc. Si la conséquence, c'est ça, parce que je pense que c'est la consécration du foot moderne dans la façon de voir le foot des deux entraîneurs.
C'est-à-dire que si tu faisais un championnat avec des équipes comme ça, peut-être que tu kifferais quasi tous les week-ends, en fait.
Bon, là, je suis pas d'accord. Et attends, Daniel, moi je reviens sur un truc que t'as dit, c'est les individualités. Moi je pense que si les individualités ont été si bonnes, c'est parce qu'il y avait ce travail des entraîneurs et ce travail du collectif global qui ont permis que les individualités soient en 1 contre 1. Si Luis Diaz est si bon face à Marquinhos, c'est qu'il est en 1 contre 1 à ce moment-là, et c'est tout le travail collectif qui est fait. Non, mais il faut le travail de l'entraîneur et le travail des coachs, c'est de faire en sorte
qu'ils insistent dessus, quoi.
Non, c'est de faire en sorte que tu exploites ce point faible et que tu arrives en 1 contre 1, justement. Comme Olise s'est retrouvé souvent en 1 contre 1 avec Nuno Mendes. Comme Kane a décroché de cette façon. Je trouve que ça a été poussé au maximum sur 1 contre 1 avec deux entraîneurs qui ont assumé ça.
Et je suis complètement d'accord avec Jean-Louis. Et pourquoi je dis que pour moi, il y en a qui diront 10 ans, 20 ans, 5 ans, 1 an, je m'en fiche. En tout cas, pour moi, c'est clair que c'est un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu. Et c'est justement parce que les intentions de jeu des deux entraîneurs, elles sont claires. Et pour moi, le football de haut niveau, aujourd'hui, ce soir, il atteint son paroxysme dans le sens où non seulement tu as des sorties de balles, tu as des gardiens qui participent et qui n'ont pas les meilleurs pieds, mais qui participent au jeu. Tu as du 1 contre 1 sur tout le terrain. En Angleterre, on a, voilà, le 1-to-1.
T'as vu jusqu'où Pacho suivait Kane parfois.
C'est fou. C'était fou. Et c'était vraiment le beautiful game, le truc que tu fais à la cour d'école. On est en 1 contre 1.
Qui sera meilleur que toi.
Exactement. Exactement. Et pourquoi il y a eu beaucoup de buts? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les attaquants sont meilleurs que les défenseurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus vite et qu'il y a des espaces. À partir du moment où t'as.
Et que t'en as aucun qui a raté réellement son match.
Exactement.
Moi, j'imagine que Jean-Louis dira que Doué a été le moins bon des trois parisiens. Ok, on sera d'accord. Mais néanmoins, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a raté son match. Et de la même façon, Moussiala, côté Bayern, parce qu'il revient de blessure, parce qu'il est moins. D'ailleurs, très bonne nouvelle pour le PSG, mine de rien, qui n'est pas une abri. Moussiala, parce qu'il n'est pas encore au top physiquement, a été le moins bon des quatre offensifs.
Mais même en étant le moins bon, il est à un niveau déjà énorme.
Son match, c'est sévère aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve que même en étant le moins bon des quatre, il a quand même un niveau très important. Parce que pour tenir le rythme, etc., c'est que tous les éléments offensifs avaient un énorme niveau.
Oui. Mais puis tous, attention, parce qu'on va me dire, les défenses, c'est pas terrible. Mais attends, ils en ont sorti aussi des ballons. Hein. C'est juste que là, il y avait un mix entre l'intensité du football d'hyper haut niveau et la qualité technique qui va avec. Pendant le match, je me disais souvent, je dis que le football c'était mieux avant. Non, le football d'aujourd'hui, je l'ai jamais vu. Cette intensité sur 90 minutes. Alors oui, il y a eu des erreurs, mais l'alignement à chaque fois, il se joue à 1 cm hein, parce que leur jeu Marquinhos pas hors jeu, hors jeu pas hors jeu, et après c'est dans les transmissions, je te dis. Je regarde les statistiques du match, c'est complètement, il y a 85% de passes réussies.
Le football dont tu parles, il n'est pas toujours comme ça.
Il n'est pas toujours. Une forme de paroxysme. Oui, c'est un tableau de Picasso.
Il n'est pas toujours comme ça.
C'est un tableau de Picasso, offensif.
Exactement. D'ailleurs, parenthèse, c'est le syndrome de Paris.
Non, le syndrome de Stendhal.
Oui, et également appelé syndrome de Paris, qui touche les Japonais et certaines femmes japonaises quand elles viennent à Paris.
Bon, bah là-bas, c'est le syndrome.
Il y a également eu en Angleterre à une époque le syndrome Manu Petit, mais ça, on a oublié.
Voilà. Alors, le syndrome Manu Petit,
c'est le romantisme français.
Le syndrome de Stendhal, plus précisément, est un trouble psychosomatique rare provoqué par une exposition intense à l'art ou à la beauté, entraînant des réactions émotionnelles et physiques extrêmes.
Je trouve que ça correspond bien à ce match.
Bravo,
quand tu parles, des attaquants et des défenseurs, il faut aussi des attaquants moins meilleurs que les défenseurs, comme tu disais. Il faut aussi dire que tu es aujourd'hui en présence d'un football, notamment ce soir, construit par deux entraîneurs, et c'est la tendance, parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait des entraîneurs qui avaient des visions différentes. C'est pour ça que ce qui m'intéresse de prime abord dans la tactique, c'est l'intention. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu veux attaquer principalement, tu veux presser haut, tu prépares ton équipe physiquement pour qu'elle soit non seulement capable de presser, mais également de contre-presser pour récupérer vite le ballon. C'est pour ça que tu as ce spectacle-là aussi. Et parce que tu assumes le risque de laisser des 1 contre 1.
Assumer le risque.
Tu assumes le risque.
Attends, l'illustration parfaite de ce que tu dis, Daniel,
on parlait d'équilibre et la Ligue des Champions a amorcé un peu le changement et on disait, t'as des entraîneurs maintenant, bon évidemment Guardiola avait été précurseur, qui vise d'abord le déséquilibre avant de penser à l'équilibre. Donc c'est pas forcément... Le football d'aujourd'hui, il est meilleur que celui d'avant. C'est qu'avant, tu avais plus de mecs qui, principalement, construisaient leur équipe de façon défensive. On construit le football pour attaquer.
Laisse le ballon aux autres.
L'illustration de ce que tu dis, Daniel, je trouve, et on en parlait avec Kevin dans l'avant-match, c'est le choix d'Alphonso Davies au poste d'arrière-gauche. C'est-à-dire que le côté droit du PSG, c'est le côté fort. Et bah, qu'est-ce qu'il a fait, compagnie? Il a dit, si c'est votre côté fort, moi, je vais mettre mes joueurs offensifs à cet endroit-là. Allez, on fait le rapport de force et on voit qu'il gagne à la fin. Plutôt qu'un truc où, rappelle-toi, à une époque, on mettait deux arrières latéraux pour contrer le côté fort en
Exactement.
Face.
Exactement.
Bon, Manu, tout ce que tu entends là de dithyrambique, d'exceptionnel.
On est tous d'accord pour dire qu'on a assisté à un match fantastique. Mais quand tu joues des matchs de cette intensité, de ce niveau-là, ce qu'il y a de plus dur, en fait, en dehors des ingrédients qu'on a vus sur le terrain ce soir, c'est cette capacité justement à répondre au duel en un contre un dans la zone en permanence. Et ça, je trouve que c'est super dur. Et dans ce match aujourd'hui, j'ai vu deux équipes qui voulaient mettre à genoux son adversaire.
Ouais.
Et à chaque fois, c'était 10 minutes c'est pour toi, 10 minutes c'est pour moi. Un combat de bas, je te mets une droite, t'es à terre, je me relève, je t'en mets une, c'est toi qui es à terre maintenant. C'est à celui qui voulait vraiment faire mal à l'autre. Et c'était vraiment une notion de duel sur les quatre coins du terrain. Dans toutes les zones.
Écoutez Ousmane Dembélé, il y a quelques instants sur Canal+, première réaction.
Grandes équipes qui attaquent, qui se posent pas de questions. Voilà, c'est les demi-finales de Ligue des Champions. On sait que Bayern, c'est une grande équipe. Nous aussi, mais voilà, on est content du résultat. Même si à 5-2, on a un peu arrêté de jouer un peu à la fin. Voilà, ça a été un match incroyable. Maintenant, on va aller à Munich pour pouvoir encore gagner un autre match, et pouvoir se qualifier. Il va falloir rester concentré.
Dans un instant, on continue l'analyse du match. Il y aura l'évaluation, bien sûr, les réactions, les conférences de presse. Paulo Breitner nous rejoindra un peu plus tard. Évidemment, on est là jusqu'à minuit dans l'after. Après ce grand match ce soir et la victoire du PSG 5-4 face au Bayern. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h17, Emmanuel Petit est là, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Jean-Louis Tour est au stade. Donc on analyse ensemble ce grand match, le match de la saison pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres, et il y a la Coupe du Monde à suivre. Donc on a une fin de saison de régal dans l'after. Les gars, maintenant qu'on a dit que c'était un grand match, que c'était magnifique, qu'on s'est régalé, il y a quand même un truc qui, sans doute, est contrariant côté parisien. Tu menais 5-2.
Ouais.
Ah oui. Tu menais 5-2. face au Bayern. T'étais là avec 3 buts d'avance avant le match retour.
Bien, quand tu dis ça, bah, tu veux signifier.
Est-ce que finalement, ce soir, t'as pas des regrets quand même
à avoir
un peu fini du... Il a dit, Dembélé, on a arrêté de jouer.
Non, moi je suis absolument pas d'accord. T'as un adversaire qui a fait un match incroyable. Bah, oui. Que tu le battes.
Ouais, déjà,
avec 5 frappes cadrées, 5 buts.
C'est énorme.
Et un péno généreux. Tu dégages une sorte d'invincibilité qui rentre dans la tête des adversaires. Je pense que la victoire, quelle qu'elle soit, puisqu'il n'y a plus la notion de but à l'extérieur, c'est comme si tu avais gagné 1-0. Que tu gagnes ce match avant d'aller là-bas, c'est déjà super.
C'est énorme.
Que tu te plaignes.
Il a eu le sentiment qu'ils se sont arrêtés de jouer parce que le Bayern est revenu comme des morts à la fin dans ce match-là.
Parce que le vrai résultat, c'est 5-5. Hein.
Si tu regardes
aujourd'hui les. Si, enfin, le vrai résultat. Le résultat qui aurait été plus logique, c'est un match nul.
Bah oui.
Aujourd'hui, quand tu regardes les expected goals, le Bayern a 0,60 de plus. C'est quasiment un but et demi. C'est-à-dire que tu as 1,91 pour le PSG, 2,51 pour le Bayern. Le Bayern a la possession. Le Bayern a plus de. A plus de
et eux, ils vont préparer d'occasion. Le match retour en regardant ces chiffres, hein, le Bayern. Ils vont dire on a montré ce soir. Dans plein de séquences où on était supérieurs, servons-nous de ça pour le match retour.
Le PSG ne peut avoir aucun regret ce soir.
Ils ont tiré le maximum des situations qu'ils ont eues.
5 tirs, 5 tirs.
Le résultat.
Donc au final, c'est plutôt inquiétant en vue du retour.
Non, c'est pas inquiétant parce que t'as gagné.
T'as gagné quand même. Tu montres que sur chaque transition, tu peux être dangereux. Quand tu peux être dangereux sur chaque transition, l'adversaire, il a peur de toi.
Quand tu marques 5 buts à ton adversaire, qui s'appelle le Bayern.
Bien sûr.
Mais tu vois,
la dernière fois qu'ils ont pris ça, c'était Ajax 95 en Ligue des Champions.
Pour moi, il y a une stat qui est intéressante, c'est le nombre de fautes. Le PSG a fait... ils ont fait 14 fautes et le Bayern n'en a fait que 4. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas réussi à toucher les Parisiens dans leur transition trop rapide, mais par contre, les Parisiens ont été en grande difficulté. Donc, gagner 5-4, c'est monstrueux pour le PSG.
Il
a fait que 4 fautes dans le match et le Bayern n'en a fait
que
4. Et bah oui, ils ont fait 4 parce qu'ils n'arrivaient pas à les toucher. Ils sont partis comme des flèches à chaque fois.
Quand tu regardes le pourcentage de passes réussies par le Bayern, les gestes techniques.
85%.
Le nombre de fautes. C'est un football en fait.
Bah, je vais pas dire.
C'est un football champagne, en fait.
C'est limite un champagne de jeu vidéo.
Je pense que Johan Cruyff, là, il s'est retourné et il a kiffé ce match. Je veux dire, c'est pas possible.
Par contre, il y a un truc, justement, ça peut rejoindre ce qu'a dit. Qui a parlé à la fin en disant qu'ils avaient arrêté de jouer, hein?
Non, c'est Dembélé.
Je pense que ça intervient aussi avec les changements opérés par Luis Enrique. Et tu sors.
Oui, la sortie de Zaïre Emery. Au commentaire, on n'a pas compris.
Et Barashkelia également. Les deux, quand ils sortent, ça coïncide.
Pour moi, il est blessé. Hein. Depuis la mi-temps, il est blessé.
Il est blessé.
Gêné.
Il peut plus faire ce qu'il a fait avant. Voilà. Et ça pèse.
Exactement. Voilà. Mais il est tellement important qu'il reste quand même sur la pelouse. C'est ça qui est dingue avec lui.
N'oublions pas qu'il y a un choix chez Compagnie qui semble être a priori un peu contre nature, mettre Goretzka pour Moussiala. Le message, c'est waouh, ça, le champagne, ça pétille de partout là. Si on pouvait couper un peu avec de l'eau, essayer de calmer un peu.
Non, c'est juste que Moussiala ne pouvait pas jouer 90
minutes. On est d'accord. Mais le profil est quand même pas le même. T'es
bien
d'accord.
Sûr, mais si t'as le petit jeune là, j'ai pas son nom
Bénat
en tête. Si t'as Karl là qui rentre, ou t'as Gnabry qui rentre. C'est chaud.
Ah, non, mais si c'est Gnabry, d'accord. Mais tu crois que c'est un match où tu mets un petit jeune, c'est comme.
Non, mais là, s'il rentre à 10 minutes de la fin.
Dans ces matchs-là,
les Parisiens sont carbo. Il y a 5-5.
Dans ces matchs-là, tu mets quand même des mecs un peu sûrs.
Regarde, Mayulu, il a failli marquer une frappe incroyable. Donc les jeunes,
il a déjà un petit bagage.
Ouais, bah, Ruiz,
il a un petit bagage.
Bon, les gars, premier supporter parisien de la soirée avec nous, c'est Salim qui est là au 32-16. Salim, bonsoir.
Bonsoir l'équipe, comment ça va?
Ça va et toi?
Salut Salim.
Ouais, bah on reprend son souffle parce que c'était un match compliqué à suivre pour un supporter. Oui, au niveau des émotions, mais c'était magnifique. C'est l'une des plus belles demi-finales. C'est pour ça que je suis très fier de mon équipe ce soir. Et je suis soulagé qu'on n'ait pas perdu ce match. Et je rejoins Daniel parce que tu disais, Gilbert, il y avait 5-2, mais c'était loin d'être fini. Et puis le Bayern était très bon. Je les ai trouvés très bons ce soir. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes.
Bien sûr qu'ils ont battu une équipe très très forte.
Une énorme équipe.
Absolument, c'est pour ça. D'où ma fierté. Je suis vraiment je suis vraiment très fier. Cette demi-finale, on s'en souviendra, on en reparlera dans plusieurs années. Par contre, moi, j'étais pas d'accord avec Jean-Louis sur Doué, et je le disais même à Max au Standard. Moi, je pense que Doué a été très précieux dans ce match-là parce que c'est le
seul. Qu'est-ce que j'ai dit sur Doué ? J'ai rien dit ce soir.
Non, c'est Daniel a dit. Jean-Louis va nous dire que Doué.
Doué a fait un match vraiment, il était très précieux parce que franchement, on avait du mal à trouver les intervalles, on avait du mal dans la zone de progression, dans le second tiers terrain, ils étaient meilleurs que nous sur plusieurs moments du match, vraiment les Bavarois au milieu de terrain, et lui, il arrivait dans les petits espaces, dans les zones à forte densité, il arrivait à se débarrasser de ses vis-à-vis, il arrivait à trouver les passes clés pour lancer soit Guevara, pour relayer avec ses milieux de terrain, ou soit essayer de lancer Nuno ou Hakimi. Franchement, moi j'ai trouvé très précieux, j'ai trouvé juste qu'il est sorti un petit peu trop tôt parce que l'entrée de Barcola, en fait, il a mis du temps à rentrer dans son match et on n'avait pas besoin de ça à ce moment-là. Je pense qu'il aurait dû jouer 10 minutes de plus Doué, mais après ça c'est que des détails. Sinon Warren, il a fait un super match, le milieu de terrain c'était compliqué parce que les Bavarois ils étaient très costauds, et puis Diaz, franchement Diaz c'était un poison à chaque fois quand il était en 1 contre 1 contre Marquinhos, c'était compliqué.
Merci, mais ça aurait été compliqué. Moi j'ai pour toujours surkiffé ce joueur, à chaque fois je trouve étonnant qu'on en parle aussi peu de Luis Diaz.
Pour moi Luis Diaz, Guevara,
Liverpool les poussés. Luis Diaz et Guevara, pour moi, c'est en ce moment, c'est joueur de côté, c'est ce qui te fait de mieux au monde.
Tu vois, plus en joueur de côté.
Enfin, en joueur de. Au Lisée, c'est pas mal quand même, en joueur de côté.
Ah oui. Mais Diaz.
Pour moi, il est plus. Oui, il est joueur de côté, mais je sais pas, je l'imagine en 10 au Lisée. Il a un profil 10 au Lisée.
Salim, un truc à rajouter, vas-y.
Ouais, je pense que la différence entre Diaz et Olise, c'est qu'Olise est un grand joueur, il n'y a pas de problème. Mais Olise, si tu fais une prise à deux, tu peux limiter les dégâts. Avec Luis Diaz, c'est extrêmement
compliqué. Il est souvent
compliqué.
Passé quand même.
Ah ouais, mais tu limites.
Salim, on a fait un joueur français, appelé Michel Olise.
Non, mais c'est pour ça que je prends des pincettes et je dis tu limites les dégâts. Par contre, avec Diaz, à chaque fois, j'ai la main sur le cœur parce que tu sais pas s'il va partir à droite et à gauche, parce que l'autre c'est un pur gaucher. Alors que Diaz, tu sais pas s'il va partir à droite et à gauche, il a ce coup de rein, il a cette faculté à se mettre en position de frappe malgré le faible le champ d'action réduit, je veux dire. Et ça, c'est très compliqué pour lui. Mais je suis très fier d'avoir gagné ce match-là. Je vois le verre à moitié plein, bien sûr.
Non, mais t'as raison de le voir comme ça.
Je vais à Munich, je vais faire le déplacement pour aller à Munich.
Du match pour l'UEFA.
Ah, tu vas à Munich, ah bah tu vas te régaler là.
Je me demandais
qui est l'homme du match, Vara ou Diaz ce soir.
J'ai pas vu.
Fabien, je suis.
Moi, je le donnerai à Diaz.
Comment tu sors un. Guevara, il fait un match.
Ouais, mais aussi, moi,
j'ai oublié pas Dembélé aussi.
Il remet
pour
son
moi, Guevara, c'est le
t'as
gars
t'as
qui
quoi,
change.
Jean-Louis, Dembélé.
Et Dembélé.
Non, moi, je suis pas d'accord sur Dembélé.
Arrête. Ah bon?
Bah non, Dembélé, c'est pas l'homme du match.
Non, il est pas. Ce que dit Jean-Louis, c'est que c'est Dembélé qui a été élu.
Ah non, je sais pas.
Mais en fait, je vous le dis.
Pour moi, il est dans la discussion quand même.
C'est Dembélé qui a été élu.
Ah, c'est Dembélé, d'accord.
D'accord. Si lui donnait le ballon d'or sur ce match à Dembélé, c'est le meilleur attaquant qu'on a vu aujourd'hui.
C'est vrai que c'est pas lui, objectivement, aujourd'hui.
Mais n'importe quoi. Le gars qui change le jeu de cette équipe, c'est Guevara. C'est lui le détonateur.
Mais même défensivement.
Mais c'est lui, mais sur le troisième but, on n'a pas assez dit que ce gars-là, le jour il a mis le pied à Paris, il a changé l'équipe, il a bonifié ce collectif, parce que évidemment que les collectifs, les deux qu'on a ce soir, ils sont extraordinaires, mais ils sont sublimés, d'abord parce qu'ils s'intègrent dans le collectif et qu'ils respectent les consignes et qu'ils œuvrent pour le collectif, mais après leur talent fait une différence énormissime, que ce soit Olise, mais un mec comme Harry Kane c'est pareil, c'est un mec qui est. Enfin, à force de dire qu'il est sous-coté, il est plus sous-coté, il est coté normalement. Mais Kane, il est extraordinaire comme joueur. Diaz, Olise, le Bayern a des joueurs fabuleux. Kimmich encore au milieu. Oh, je sais pas si à un moment on a cru qu'il était moins fort qu'à une époque, mais c'est extraordinaire également.
Il fait une passe sur la passe pour le centre pour le petit coup franc.
Quand il tire les coups de pied arrêtés, ouais, c'est tout. Quoi.
Je sais pas qui a mis dans ces deux points. Que c'était un match de joueurs. Ça c'est un truc, je crois que c'est Daniel. Ça c'est un truc c'est effectivement là ce soir, t'as pas l'impression enfin t'as peut-être pas forcément envie de mettre en avant une œuvre collective, mais moi je suis pas d'accord.
L'œuvre collective, moi, je la mets en avant dans l'idée de jeu global,
c'est ça les grands sacrifices. Sauf que tu veux retenir quoi? Tu veux retenir
les individualités,
tu vas retenir des gestes incroyables, tu vas retenir des mecs qui ont fait ça, mais c'est ça Kvaratskhelia, Luis,
c'est ça les grandes équipes en fait.
Non mais moi je suis d'accord.
Oui mais la grande équipe n'est jamais grand. En fait le collectif seul c'est Bodø/Glimt. la grande équipe.
Bono Gün n'est pas une grande équipe.
On parle de très très haut niveau là.
Là je te parle de grande équipe.
Laissez-moi déjà terminer la phrase.
Non, je t'ai dit Bono Gün dans grande équipe.
Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit collectif. J'ai dit le jeu collectif.
Ouais.
Sur le papier, hein, si tu veux me parler que d'un jeu collectif parfaitement huilé, le don de soi, tout le monde joue pour tout le monde, c'est Bodo Glimt. La très grande équipe, c'est le collectif huilé,
ben oui,
avec l'individualité,
ben
oui, qu'il sublime. Ben oui. Comme ce soir, tu as Kvara, Diaz, Olise, Kane.
C'est ce que je
Donc,
disais. Ouais.
Tu ne peux pas te passer des individualités qui font que tu te souviens du football, que tu t'identifies au football, que tu aimes le football, pour avoir un geste comme celui de Luis Diaz, pour avoir les débordements d'Olise et tout ce qui se passe dans ce match-là, ou Kvara. C'est ce qui fait la force du foot, c'est pour ça que ces mecs ont des gros salaires, c'est pour ça que c'est des game changers dans leurs équipes, c'est les individualités. Et le collectif, il est très bien, mais si Kvara vient pas au PSG, c'est pas la même équipe.
Bien sûr, mais parce que dans le collectif, il y a les individualités, Daniel. Donc en fait, tu peux pas dire un collectif est fort sans ses individualités.
Ces derniers temps, on entend trop le collectif. Oui. Le collectif est au-dessus de l'individu. C'est faux,
si,
c'est un discours.
Si, ben non, je suis pas d'accord. Je vais t'expliquer si tu me laisses te répondre. C'est que aujourd'hui, pourquoi le collectif est au-dessus des individualités? Parce que les individualités font tout ce que le collectif réclame, notamment sans le ballon. Et c'est là où tu défends souvent. Tu souvent défends certains joueurs, des grands joueurs. Je vais même pas en parler aujourd'hui, mais certains grands joueurs ne font pas ce que l'équipe dans laquelle ils jouent demande. Et là, Kvara, pourquoi c'est monstrueux? C'est parce que c'est monstrueux avec le ballon, c'est monstrueux sans le ballon. Donc tous ceux qui me parlent des cracks, des phénos, ça n'existe pas.
C'est un crack, Kvara.
Mais oui, mais c'est un crack.
Tu le dis pas.
Mais c'est parce que si tu Mais si tu demandes aujourd'hui à tous ces suiveurs là ou tous ces mecs qui suivent le foot, jamais ils te le mettront top 5, Kvara. Jamais ils vont te le mettre top 5.
Je te le dis
qu'il y a plein de gens, il y a plein de joueurs qui vont passer devant.
Mais
parce que ça
me coûte.
Mais si.
La parole à Manu Petit. Tu peux pas, Kevin, dire ça.
Aujourd'hui, dans le football européen, tu vas me dire 5 joueurs offensifs. Je peux te dire qu'en France, il y en a très peu qui vont mettre Kvara dans les 5 joueurs européens. Bah tu verras. Bah tu me demandes, tu vois. Fais des micros trottoirs, tu vas voir.
Bah c'est des aveugles.
On va mettre les mecs qui font les talons. Les mecs qui te font des trucs de dingue. Mais si, mais bien sûr
non,
que
mais
si.
En fait, tu comprends
mais sur l'individu et le collectif,
tu comprends pas ce que je comprends.
Non, mais je suis pas d'accord avec Daniel. Non, j'aimerais que tu développes.
Parce qu'en fait, vous comprenez pas ce que je dis. En fait, ce que je dis, c'est que si tu l'enlèves, si le collectif était supérieur, si tu l'enlèves, tu ne sens pas la différence. Or, si tu l'enlèves, t'es mort.
Oui, mais ça a toujours été.
Non, non, la parole à Manu.
Mais Emmanuel, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Là, franchement, vous êtes de mauvaise foi.
Tais-toi, Daniel.
Si tu enlèves Luis Diaz du Bayern, c'est plus le même Bayern. Si tu enlèves Harry Kane, c'est plus le même Bayern.
Si tu enlèves Zidane,
eh ben non, mais la tarte, t'as la tarte, t'as plus les fraises. Voilà, c'est tout.
Tu peux avoir des fraises différentes. T'auras peut-être des fraises différentes. T'auras pas des carigettes. T'auras peut-être des.
Eh ben oui, t'auras des fraises d'Espagne. Tu restes dans la cachette.
500 grammes dégueulasse.
Voilà ce que
le match de ce soir.
C'est ça que
t'auras la tête.
Allez, vas-y, Manu.
J'ai du mal à saisir pourquoi vous prenez la tête après le match qu'on a vu en fait.
C'est parce qu'il dit n'importe quoi.
Mais non, mais
il veut m'énerver exprès.
Mets-les d'accord, s'il te plaît.
T'as dit quoi déjà? C'est quoi ta phrase par rapport au collectif?
Tu dis t'as la tarte aux fraises. Tu continues à manger ta tarte, t'as pas les fraises de bonne qualité.
Ben non,
ça ne marche pas. Parce que si tu enlèves Luis Diaz du Bayern, c'est pour la même.
Mais fraises, il y a fraises dedans, donc il y a des fraises.
Mais tu vas te taire, toi. C'est justement qui parle.
D'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais si on mettait un super joueur dans une équipe pas terrible, tu penses qu'il arriverait à faire la même chose?
Il y a des mecs. Maradona, il fait 90 et 86, il fait gagner l'équipe quand
Si je t'écoute, en fait, tu dis que le collectif.
Ça, on l'a déjà vu plein de fois, ça, dans le football, ça.
Mais non, mais d'accord.
Mais Kvara, c'est pas Maradona, Daniel.
Mais pour moi, c'est les deux plus beaux collectifs.
En 2006, la France va en finale sans Zidane.
C'est les deux premiers collectifs, les deux plus beaux collectifs qu'on voit aujourd'hui
Est-ce
que c'est pour toi une coïncidence que dans ces deux plus beaux collectifs, on voit des joueurs qui rayonnent?
Comment ça, je comprends pas.
Sur le plan offensif, justement. Tu m'as parlé de
Diaz. Kvara, il est meilleur que Diaz.
Mais là, tu
vas
dans ces cas-là, tu as quelque chose qui est différent. Tu vas comprendre.
Dans ces cas-là, si les individualités devaient permettre au collectif de rayonner, pour moi, je pense que c'est l'inverse. Dans ces cas-là, Kylian Mbappé ne serait pas dans la mouise où il est à l'heure actuelle. On est d'accord avec toi?
Non, ça n'a rien à voir.
Si, quand même.
Mais si, Daniel,
lui
mais
qui tout en permanence.
Et là, on n'a pas encore parlé des entraîneurs. Parce que tu me parles d'individualité, de collectif. Bon. S'il n'y a pas l'entraîneur.
Vous partez trop loin, là.
Non, je veux commencer le match.
Parce qu'en fait, il est en train de nous dire qu'il est 23h32, on fait une pub et l'évaluation arrive juste après.
Non, mais c'est parce que vous n'étiez pas des vedettes dans vos équipes, donc vous souffrez de ça, c'est tout.
On se retrouve dans quelques secondes dans l'after. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Dans quelques minutes, Paulo Breitner va nous rejoindre. Jean-Louis Tour est toujours au stade. Daniel Riolo, Manu Petit et Kevin Diaz sont là, bien sûr. Messieurs, évaluation que l'on va démarrer avec Mehdi, tout de suite, qui est avec nous au 32-16. Salut Mehdi.
Salut l'équipe.
Mehdi, quel est ton joueur du match ce soir?
Kvara, arrêtez les gars, vous pouvez pas me dire que c'est Luis Diaz. Non, Kvara, là-dessus, là, il a imité le PSG.
Moi, je lui ai dit que c'était Kvara. Moi, je suis d'accord avec toi.
Mehdi, si tu suis un peu, notamment SofaScore, qui est quand même un truc de référence pour voir comment sont notés les joueurs, et bah, par exemple, Kvara, il a 8,4, Dembélé, 8,2, Harry Kane, 8,7, mais c'est surtout parce qu'il a marqué, il fait une passe D incroyable, et Luis Diaz, il a 8,8. Donc, Luis Diaz, aujourd'hui, si tu le mets devant Kvara, c'est pas non plus.
Tu nous sors un logiciel qui te.
Non, pour moi, il n'est pas au niveau du PSG. Jamais de la vie, tu le fais sortir à la place de
Bayern. Il y a une blessure, le pauvre.
Jamais de la vie. Ensuite, Enrique. On ne peut pas faire un changement sur une phase offensive des Bavarois. C'est impossible, ça. Je suis en toute humilité, je n'ai rien à lui apprendre. Mais normalement, ça, c'est le béaba du coach. Et dernièrement, un but d'écart avec peut-être ni Hakimi, ni Mendes, et peut-être Nick Vara au match retour. Moi, je vous dis, les gars, je suis
pas sûr. Non, ça, c'est pas un problème, parce que Kevin, il dit que c'est le collectif qui compte, c'est pas les
mais
mecs.
Non, mais arrête, Daniel.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Mehdi? Moi, je suis assez d'accord avec lui, moi. Hein.
Alors, s'il y a véritablement des absents lourds, genre, tu me dis qu'il n'y a pas Hakimi, qu'il n'y a pas Mendes, ça va être compliqué de jouer les phases de transition. Tu vas avoir des problèmes un petit peu partout, parce que leur rapport offensif et défensif, il est primordial dans cette équipe. Pour l'instant, je n'ai pas la news encore de leur absence confirmée pour le match retour. Mais évidemment qu'il faut être au complet. Moi, là, j'estime qu'on a eu un PSG qui était quasi complet, parce qu'il manque Fabien Ruiz, mais bon, on est habitué maintenant depuis de longues semaines. Mais on a eu l'équipe Ligue des Champions ce soir. Maintenant, si tu ne l'as pas,
c'est plus
la même chose, oui. Malgré le collectif et tout ce qu'on dit, quoi.
Je sais pas, je suis pas docteur, je sais pas ce qu'ils ont exactement, mais Hakimi, il a quand même fini le match. Kvara, il est reparti.
Ah non, Hakimi,
c'était l'écran.
Hakimi, à la fin, il
dit
plus rien.
C'était l'écran, non?
Je pense que Kvara, c'était pas une crampe, mais bon, je sais pas, c'est vous les sportifs de haut niveau, mais pour moi, Hakimi, normalement, une crampe, tu l'étires et 2-3 minutes après, tu peux repartir. Là, j'ai l'impression qu'il pouvait plus courir du tout et qu'il est resté parce qu'il y avait plus de session de changement.
Ah, il y a des petites sessions de changement.
Et qu'il a une petite élongation et qu'il est resté plutôt que de finir.
On attend les infos et la conf de Lucien Riquet.
On est mobilisé.
Kvara, c'est plus inquiétant en tout cas.
C'est vrai que Kvara, c'était en première mi-temps qui s'est tenu.
S'il était blessé, il serait pas revenu.
Non, je sais, mais c'est plus une fatigue musculaire. D'ailleurs, c'est pour ça que Mendes, Hakimi et lui, t'as vu ce soir les courses qu'ils ont fait pendant 50 minutes.
Les kilomètres
parcourus, le Bayern, t'as 115. Et le PSG en dessous de 110, je crois.
Non, mais c'est normal, ils ont beaucoup couru.
Non, mais en fait, Daniel, là où c'est important, en fait, sur les courses, c'est les changements.
Oui, c'est les mettre
les accélérations.
Et en termes de sprint, le PSG en a fait énormément, énormément.
Mehdi, on a dit beaucoup de bien de beaucoup de joueurs, mais il y en a un ce soir, Mehdi, j'aimerais que tu donnes ton avis, qui nous inquiète de plus en plus, c'est Marquinhos.
Bah oui.
Marquinhos, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Mehdi?
Non, mais on voit qu'il arrive, il a ses limites, on va pas se mentir. Et c'est la raison pour laquelle il a pas joué les deux derniers matchs de championnat. C'est parce qu'on sait pertinemment qu'il peut plus tenir. Donc là-dessus, j'espère que cet été, on va pouvoir anticiper et puis faire un recrutement de taille. Mais oui, Marquinhos, oui. Hein,
non, mais dis, on est d'accord qu'il faut qu'il, avec son beau sourire, il faut qu'il lève une deuxième Ligue des Champions et puis après, il faut qu'il aille rejoindre Verratti.
Le problème que soulève Mehdi, il est pas là. Il serait d'accord, Mehdi, pour qu'il la soulève avec son très beau sourire et tout. Le problème, c'est que est-ce que avec lui derrière, tu vas vraiment la soulever? ou est-ce que tu vas avoir un problème au match retour parce que tu vas avoir la pression? Quand
vous en êtes à vous dire, faut pas qu'il joue.
Non, mais Edvazo, c'est pas
non, comme
si
son remplaçant
c'est
mieux. Non, par contre, ça peut donner des indications pour le match retour.
Tu changeras pas, t'iras pas mettre Zabarni pour le match retour, tu joueras.
T'as la place de compagnie. Le but magnifique de Luis Diaz.
À la place de compagnie.
À quelle distance est Marquinhos?
Non, mais la position de compagnie dans les tribunes, à mon avis, il a dû voir que Marquis, à chaque fois, quand il était en un contre un en profondeur, il était pris.
Maintenant, Marquinhos, il est dans le deal. Il est dans le deal et tu fais avec lui. C'est dans le deal jusqu'au bout. T'iras au bout avec ou sans lui. Il y a 5-4, il y a un but d'avance. Il faudra le tenir, profiter des transitions, parce que ce soir, le Bayern a la possession. Le Bayern, dans le jeu, dans la construction du jeu, a plus fait que Paris. Et au retour, ça va être la même. Mais Paris, d'abord, a un mental hors norme, une faculté de résilience, même quand ils ont pas trop le ballon, et ils arrivent avec leur transition à faire mal.
J'ai trouvé le Bayern pas mal aussi, hein, à ce niveau-là.
Absolument. Moi, j'ai trouvé,
c'est le haut du panier, là.
Mais qu'en étant un chouille au-dessus, Paris gagne quand même. Ça te donne une confiance. Déjà qu'ils sont boostés en confiance.
Mehdi.
Daniel, je te disais, on n'aura peut-être pas cette équipe au retour. Et puis le Bayern, ils sont
si
pas bêtes.
Si c'est le cas, Mehdi, il n'y a rien à dire. Si c'est le cas, effectivement, t'es handicapé.
C'est ça. Et puis là, le problème, c'est que le Bayern, ils ont trouvé notre talon d'Achille, on va dire. C'est Marquinhos. Ils ont mis Diaz sur Marquinhos. Marquinhos, il n'a pas vu le jour. C'était très compliqué, honnêtement. On a vu nos limites. On a vu les limites de Marquinhos.
Non, mais t'as vu les limites d'une équipe aussi, parce qu'en face, il y a énormément de qualité. Mais je pense qu'il va falloir ouvrir le débat à Luis Enrique, parce que pour moi, cette victoire, c'est lui.
Attends. On va pas trop vite. On a le temps. On est là jusqu'à
minuit. On avait 3 buts d'avance.
C'est pas lui, ça.
Voilà. Mehdi, déjà, je voulais te faire un cadeau. Parce que c'est comme ça, on est dans l'after, c'est en fait nos 20 ans. Donc on t'offre ce soir le maillot des 20 ans de l'after avec nos amis de iBlock. Donc tu vas pouvoir le choisir, il y en a un soir.
Je le porterai à Budapest et on y va, promis.
Ah, ça c'est beau. Bon, on va les photos. Ouais. Très bien, tu vas pouvoir choisir ta taille avec Max. Et c'est cadeau. J'aimerais qu'on reste sur les joueurs avant de parler de Luis Enrique. Jean-Louis, on a parlé de Marquinhos, on a parlé de Kvaratskhelia. Quel autre joueur tu veux nous mettre sur la table de l'after, là, toi qui étais au stade?
Bah écoute, moi j'ai vu un Nuno Mendes très en difficulté en un contre un avec Olise, ce qui est assez rare de sa part. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été un peu diminué ces derniers temps, mais sur les matchs de Ligue des Champions de haut niveau, j'avais l'impression qu'il mettait toujours dans sa poche l'ailier gauche adverse.
Quand il s'agit de Mossala vieillissant et Olise qui est en ascension, évidemment c'est pas la même histoire.
Après je l'ai vu faire avec Yamal aussi en Ligue des Nations l'année dernière, avec Saka aussi contre Arsenal l'année dernière, donc voilà, des mecs moins vieillissants, il a répondu présent, mais là c'était criant. Et sur le 1 contre 1 pur, à départ arrêté, voir Olise l'enrhumer autant de fois, c'était un peu inquiétant.
Là je crois surtout qu'il faut valoriser, valoriser Olise qui a montré aujourd'hui, notamment dans son énorme duel avec Nuno Mendes, en comparaison de Lamine Yamal, que bien sûr j'adore, il n'y a pas de souci. Là on compare des cracks absolus, mais Olise, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est incroyable.
Concernant Michel, je vais te dire, pour moi c'était le match que j'attendais.
Exactement.
Parce que il a été très bon, on en parle depuis le début de la saison maintenant, mais en référence top niveau Ligue des Champions. Bon, il avait fait des bons matchs, il a été excellent contre le Real, mais là, il joue le tenant du titre. Une équipe hors norme en ce moment, qui fait peur à tout le monde en Europe. Nuno Mendes, comme Jean-Louis l'a dit, il avait mis tout le monde dans sa poche jusque-là. Et là,
il y a un joueur que j'ai beaucoup.
Et là, Olise, il s'est, honnêtement, 80% du temps, il s'est baladé. Ouais, c'est le match référence top niveau qui dit, ce mec-là, titulaire en bleu, titulaire au Bayern.
Titulaire en bleu à droite.
Hein, c'est le cas. Quel joueur t'as-tu
il y a un joueur de Diaz et d'Olise que j'ai trouvé vraiment fantastique ce soir, c'est Harry Kane.
Incroyable.
Harry Kane, dans son toucher de balle, dans sa vision, regarde la passe qu'il donne à Diaz, mais même la première passe qu'il donne au bout de 10 minutes de jeu, là, ce plat du pied.
Qui doit faire 2-0, Olise rate une grosse occasion.
De toute façon, à chaque fois qu'il décroche sur le terrain, il éclaircit le jeu, il
va pas vite en termes de
il a un flingue en plus, il sait exactement où aller, où se déplacer. Enfin, il est comme un bon vin, il vieillit super bien avec le temps, et en fait, il a réussi à se réinventer, en plus de garder son efficacité dans la surface de réparation. C'est un garçon qui est devenu tellement important dans l'entrejeu, quoi.
Tu vois, je disais récemment, parfois hors cœur qui bat pour une équipe et tout, je disais que j'adorerais pour l'histoire que Griezmann gagne la Ligue des Champions, pour lui sa carrière et tout.
Harry Kane.
Si Harry Kane gagnait la Ligue des Champions, Ça me ferait plaisir. Je le dis souvent, la Coupe du Monde. Comme Drogba en 2012, quand avec Chelsea, et pourtant ils sont dominés par le Bayern, ça me faisait plaisir pour lui, pour Lampard. Pour... Là, pareil, il y a des mecs comme ça, j'ai envie qu'à un moment ils aient un kiff dans leur vie. Parce qu'il a morflé avec l'Angleterre plein
Tottenham,
de fois,
finale
de l'Euro,
Tottenham.
Contre les Bleus. Bah, Tottenham, on n'en parle même pas. Mais voilà, si ce gars-là soulevait la Ligue des Champions, ça me fait plaisir pour lui.
Et
il serait récompensé de tout ce qu'il a fait de bien.
Tu parlais des joueurs sous-cotés. Mais il y a quelques années dans l'after, quand on faisait notamment la première ligue sur RMC Sport, j'avais dit que pour moi c'est un des meilleurs avant-centres de l'histoire, notamment dans son duo avec Harry Kane, qui est pour moi un des meilleurs duos de l'histoire de la première ligue. Que ce qu'ils faisaient les deux, c'était extraordinaire.
Qui t'a dit?
Avec Hoonminson, c'était un des meilleurs duos de la première ligue. Mais je pense même que Harry Kane est un des meilleurs avant-centres de l'histoire par sa polyvalence. Et là, au Bayern, alors tout le monde disait, oui, il a jamais rien gagné, il gagnera jamais. Et là, il
au Bayern, il a jamais rien gagné, c'est un truc que je supporte pas.
Ouais, je suis d'accord.
C'est bon. On parlait tout à l'heure de joueurs néerlandais avec Manu. T'en as plein qui ont pas gagné de grands titres, mais qui sont des joueurs fabuleux. Quand Dennis Bergkamp, puisque t'as joué avec.
Totti qui a gagné une Serie A, qui a pas gagné.
On continue l'évaluation dans quelques instants, les gars. Et on attend les conférences de presse.
En club, je parle.
De Luis Enrique, évidemment, de là jusqu'à minuit et demi. Ensuite, il y aura les nuits du Casar enchaîné. On se retrouve tout de suite dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot.
Gilbert Brigand. Il est 23h47. Emmanuel Petit est là. Kevin Diaz est là. Daniel Riolo est là. Jean-Louis Tour est au stade. Grande soirée de Ligue des Champions ce soir. Il y en aura une autre demain. Les Coupes d'Europe vont nous occuper dans les semaines qui viennent, ainsi que la Coupe du Monde, bien sûr. D'ailleurs, n'oubliez pas que nos podcasts dédiés aux 48 nations participant au Mondial sont en ligne. Vous trouvez ça sur l'appli rmcsport.fr. Une petite mise à jour avant la Coupe du Monde pour tout savoir de toutes les équipes. Voilà. La Corée du Sud, Curaçao, l'Australie, enfin tous les autres. Bref, vous avez tout ça disponible. Bon, continuons l'évaluation, les gars. J'aimerais quand même qu'on rentre un peu dans les détails du match de Dembélé. Dembélé marque. Dembélé, il a un contre un face à Neuer en début de match. Tu demandes ce qu'il fait, il ouvre le pied là de façon assez étrange.
J'ai pas compris parce que sa conduite de balle, en fait, il déporte son corps alors qu'en fait c'est sa conduite de balle qui est pas bonne parce que ça lui permet de sortir de l'axe.
Est-ce que Dembélé a fait un bon match ou est-ce que vous êtes un peu frustré?
Ah non, Dembélé il fait un bon match. Ouais, il oriente, il est là.
Le deuxième but qui marque.
Il met un doublé quand même.
Tout à fait.
Il y a le penalty et il y a le but quand il est au duel avec Coupa Mécano, voilà. Et en plus de ça, il y a toutes les attitudes. Excusez-moi, mais c'est possédé. Dans le pressing, il y a Kvaratskhelia bien sûr, mais il y a lui aussi. Et je peux vous dire, quand ces deux-là font le pressing, Doué, il est obligé de courir comme un malade à côté aussi. Et même la frustration à chaque ballon raté, perdu, franchement, c'est le capitaine offensif de cette équipe.
Je suis d'accord, Jean-Louis. Gros match de Dembélé.
Alors, j'en arrive maintenant à un chouchou de Kevin Diaz, qui a marqué une tête extraordinaire aujourd'hui, alors qu'il n'est pas grand.
Le meilleur au milieu ce soir.
Ouais, le meilleur au milieu. Ouais. C'est vrai que Vitinha a été correct.
Il a bossé. Il n'a pas brillé comme il peut briller d'habitude. Il a bossé. Neves, lui, grâce à son but et à énormément de sorties de balles.
Moi, Vitinha, le seul reproche, c'est que je trouve qu'il suit trop l'état global de l'équipe. C'est-à-dire que quand le PSG va, on le voit. Quand on est dans la difficulté, on le voit pas. Alors que c'est peut-être là où tu l'attends un peu justement pour soulager quand c'est dur.
Après, attention, en face, t'as un gros milieu.
Mais bien sûr.
Pavlovic, on l'a pas cité.
C'est très fort, Pavlovic. J'ai mis le soir. Pavlovic, je l'ai dit. Tu t'es dit à Dimitri.
Ce gars-là n'est jamais évoqué. Tu sais, c'est une espèce d'anonyme du football. Ouais. Mais au milieu,
c'est énorme.
Parce qu'au milieu, mine de rien, au Bayern, ils sont deux. Hein.
Et il a une base aussi, que
Moussiala est plus un 10, parce que leur schéma, il est quand même gros risque, mine de rien. Paris, au milieu, ils sont trois. À courir, à occuper l'espace. Neves,
ils sont un peu trois, Daniel, quand même, parce que Kane décroche beaucoup, Moussiala aussi.
C'est des mecs qui décrochent, mais dans le profil d'aller à la bagarre, d'essayer de récupérer des ballons quand tu ne l'as pas dans le jeu sans ballon. Oh, Kimmich et Pavlovic, c'est hallucinant ce qu'ils font comme travail.
Pavlovic, j'en ai parlé à Jimmy. Franchement, je l'ai trouvé monstrueux.
J'adore Pavlovic.
Il a raté trois passes dans le match. Trois passes. Sur 65.
Bon, maintenant, j'ouvre le dossier des gardiens. Tout à l'heure, on a dit le PSG marque sur ses 5 tirs cadrés. Bon.
Ah, aujourd'hui, il n'a pas été décisif.
Neuer, il pose la question. Neuer,
grand-chose.
Et il faudra aussi comprendre le Bayern, 9, bien sûr.
Ils doivent faire 6 tirs cadrés, le Bayern.
Et alors, il y a 17, un truc que vous avez remarqué, évidemment. Dès que Neuer sortait de sa surface pour faire les fameuses relances à la Neuer, tu avais Dembélé qui piquait un sprint à 2000 à l'heure pour bien aller. Sûr. Ils avaient bien identifié, le PSG, qu'en gros, les relances de Neuer, c'est loin d'être la sécurité sociale. Voilà.
Mais il y a aussi le fait que si tu veux pas laisser jouer ton adversaire, il faut presser le seul joueur qui est libre sur le terrain, c'est-à-dire le gardien. Ça, ça fait partie de la tactique et c'est pour ça qu'on va en venir à le
saluer. D'ailleurs, le but de Kvaratskhelia, quand il plonge de l'autre côté, t'as l'impression qu'il fait exprès.
Non, oui, non. Il est un peu fatigué quand même.
T'as vu la tactique du Bayern. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il le donnait derrière Neuer pour qu'il envoie, pour mettre un positionnement haut de l'équipe du Bayern dans le camp du Paris Saint-Germain. Il faisait ça à chaque fois. Sauf qu'une fois sur deux, ça n'a pas marché parce qu'il y avait le président.
Moi, le Bayern, c'est oui, il va falloir, mais qui trouve un autre gardien, ce sera pour l'année prochaine. Et pareil pour le PSG, tu vas continuer encore avec Safonov, t'as l'impression qu'il est là pour colmater les braises, et je te mets un coup de poing, et je te saute à droite, je te saute à gauche.
Tu trouves qu'il fait un mauvais match,
un match correct.
Ouais, mais bien sûr qu'il fait un match correct, ok, mais t'as quand même le sentiment que tu peux avoir mieux. Tu vois, quand tu regardes les deux équipes, t'es là, tu regardes, tu dis, ouais, bon, on va pas changer, Mendes, quel arrière-gauche on pourrait prendre? Bah non, au milieu, qu'est-ce qu'on
prend? Tu prends quel gardien aujourd'hui?
Il y en a pas. Tu me laisses un petit peu plus de temps.
Non, il y en a pas, je te dis.
Il y a que des mauvais gardiens.
Il y a pas des mauvais gardiens, mais des gardiens bien meilleurs que ça.
On pensait en avoir pris un bon, hein.
Oui, je suis d'accord.
Il sortait bon, sur toutes les fiches.
Si, t'as Mike Maignan.
Il est arrivé au PSG,
t'as Mike Maignan. T'as Mike Maignan, ancien parisien, voilà. Ouais. T'as Mike Maignan, sinon t'as pas.
Après, peut-être que Chevalier peut se faire enfin au contexte parisien aussi.
Mais je veux dire, il n'y a pas
de redevenir le chevalier d'avant
pour le Bayern ou pour le Paris Saint-Germain.
Et avec un gardien moyen.
Après, juste Safonov, il ne fait pas d'erreur majeure, mais il ne fait pas d'exploit non plus ce que Donnarumma avait fait l'année dernière au même moment dans la compétition. Sur le but d'Olysée, par exemple.
Sur les actions
le but d'Olysée, par exemple, qui finit dans l'axe du but. Alors, il ferme bien son pied, etc. Bravo à lui. Mais le ballon est quand même dans l'axe.
Mettre en face,
le 1 contre 1 contre Olysée aussi. Un exploit, c'est ça. L'arrêt de Donnarumma sur Odegaard l'année dernière, on aura moyen but.
Sur 1 contre 1, il le gagne, il la touche sur Olysée. Il aurait pu faire 2-0.
Ah, celui-là, oui, bien sûr. Ça c'est sûr.
Si c'est
et je pense qu'il peut sortir sur Upamecano aussi.
Parce qu'il fait un pas trop droit. Il n'est pas bien placé.
On n'a pas parlé de Pacho. Alors Pacho, il a dû avoir comme consigne à l'ancienne.
Tu suis partout sur le terrain.
Voilà, jusque dans les chiottes, comme on disait.
Même latéral gauche, il est sorti de son axe.
Ça se voit.
J'ai pas aimé sur le troisième but d'ailleurs du Bayern, qui remet le Bayern dans le match à 5-2. Ce coup franc de Kimmich qui donne sur Upamecano. Pacho, il regarde Upamecano sauter.
Il concède le pénalty. Pour moi, c'est la première fois dans un match de très haut niveau. Je le vois en aussi grande difficulté, mais c'est normal. Parce qu'il y a aussi la qualité des adversaires.
C'est l'attaquant qui va se le chercher.
Il va le chercher, le
pénalty. Mais c'est aussi la qualité des adversaires.
J'en veux pas trop à Pacho sur le pénalty, parce qu'il fait son
Luis Diaz. C'est quand même paradoxal depuis le début de cette soirée, c'est qu'on a quasiment mis plus en avant le collectif du Bayern, quasiment plus mis en avant les individualités du Bayern. Et pourtant, c'est pareil qu'à gagner.
Le Bayern a la possession ce soir. Le Bayern a globalement dominé.
Parce que Pacho, Marquinhos, je crois qu'on sera d'accord pour dire qu'Upamecano, c'était meilleur.
Ouais.
Et pourtant, ils ont pris 5 buts.
Ouais.
Non, mais il est paradoxal ce match. Attention, derrière l'enthousiasme.
Mais même derrière avec les attaquants,
qui
Daniel.
De nous ce soir, il y a quand même une analyse qui est un peu particulière, mine de rien.
Olysée,
on dit qu'il a fait un grand match. Kane, un grand match.
C'est la vérité.
Diaz, extraordinaire. Pablo Vizquin. On a pas arrêté de citer les mecs du Bayern.
On a dit aussi ceux du PSG. On a dit aussi Kvara. On a dit aussi Joao Neves. On a dit quand même que
le gardien. Safonov a fait 2 arrêts, en fait. Hein.
Ouais, bah oui, non, mais c'est pas fou.
Pas fou. Pour Neuer, 0.
Oui, aujourd'hui c'est un match. De toute façon, et je reviens à la déclaration de Compagnie hier ou avant-hier, il a dit que ça allait aller d'un côté ou de l'autre. Il y avait trop d'éclairs, il y avait trop de qualité dans ces deux équipes. Ça a fini à 5-4 pour le PSG. Ça aurait pu finir à 6-5, ça aurait pu finir à 4-3.
Sauf que Kevin, les éclairs quand même, si on rentre un peu dans le détail, ils sont plus côté parisien que côté Bayern ou globalement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette analyse. On a l'impression d'une domination un peu globale quand même dans le jeu. Or le PSG, par contre, là où je rejoins Daniel, c'est qu'ils ont fait plus mal. Voilà. Mmh. Quand ils partent en contre, c'est pour ça qu'à 5-2, nous, au commentaire, on s'est dit ils peuvent en mettre 7 à la fin. Qu'on avait l'impression qu'ils faisaient hyper mal à chaque fois.
T'as l'impression que ça pouvait faire ça.
Mais c'est là où il faut ouvrir le débat de Luis Enrique, parce que c'est lui qui a permis à ce club d'avoir cette confiance, d'avoir cette détermination, d'avoir cette espèce de cap de super-héros où on pense qu'on peut rouler sur tout le monde. On est capable de défendre, on est capable de contre-attaquer, on est capable capable de vous trancher en contre.
Quelque chose de simple, c'est devenu comme ça.
Non, raison. C'est pas simple du tout ce qu'il fait, Daniel. Tu veux sans cesse minimiser, je te le dis. C'est pas simple.
Mais je minimise pas du tout.
C'est pas que le collectif. Laisse-moi finir. C'est pas simple.
Ce n'est pas depuis le début.
Ce n'est pas simple.
Un jour, il faudra qu'il reconnaisse.
Laisse-moi finir. Tu me laisses même pas parler. Mais j'ai même pas parlé. Tu me coupes. Je te dis que c'est pas que de la confiance. C'est pas que le collectif, les individualités, c'est un tout. Et le chef d'orchestre, c'est lui. Donc tout à l'heure, je parlais d'un match Picasso. Il y a eu Picasso des deux côtés. Et le peintre, c'est pas Guevara. Okay. Le peintre, c'est pas Dembélé. C'est Luis Enrique.
Top Citizen.
C'est lui.
Luis Enrique en zone d'interview.
C'est le meilleur match que j'ai participé. C'était incroyable. Tu te rends un peu compte quand tu joues, mais à la fin, c'est vraiment quand tu t'assis un peu et tu dis 5-4 quand même. Mais voilà, un grand match de foot. Ils sont une incroyable équipe. Je sais qu'eux, ils disent la même chose de nous. Et voilà, c'est un plaisir de jouer en demi-finale de Champions, encore plus dans cet niveau. Et heureusement, on a pu gagner. On a un bout d'avantage, mais comme on a vu aujourd'hui, ça signifie absolument rien. Et on va là-bas dans la même façon qu'on a allé à Chelsea, à Liverpool, même avec un avantage, on va là-bas pour gagner, avec un bon esprit, une bonne idée pour avoir un résultat positif et aller au final.
Voilà, encore une réponse de Vitinha qui est en direct sur RMC.
C'est
portugais, du coup, on va pas l'écouter.
Il a fait une tirade de 10 km, un tunnel, on était perdu dans le tunnel.
25 secondes.
Ouais. Mais toi, tu fais jamais ça, toi.
Si, bien sûr que si.
Lui, il fait des bouchons, lui.
Bien sûr que si. Moi, je te fais tous les tunnels de la Terre, sauf que moi, je l'ai écouté. Donc, à un moment, même si ça lui fait grandement violence, et il ne le reconnaîtra jamais, à partir du moment où tout est devenu clair et on a arrêté les expériences fumeuses, tout s'est remarquablement bien passé. À un moment, peut-être que tu comprendras que quand on a mis en place un 4-3-3, tranquille, les bons joueurs aux bonnes places, qu'on a arrêté d'intervertir, de faire le carnaval et les cotillons, on est arrivé à quelque chose de fantastique. Et je n'ai jamais, jamais enlevé, parce que ça, dès le premier jour, j'avais dit, l'équipe qui battra ce PSG, ce sera toujours une équipe plus forte. On n'aura jamais plus la honte, l'humiliation de perdre contre des moins forts. Elle aura un état d'esprit exemplaire. Il avait mis un pied au PSG, que je l'avais dit. En revanche, toutes les expérimentations à la con, je ne changerai jamais d'avis. Elles n'ont servi à rien. À partir du moment où il a eu tous les joueurs, qu'il les a mis là où il fallait, ce que tout le monde aurait fait, les mêmes équipes, derrière, il a bossé tranquillement. Et ça s'est remarquablement bien passé.
Manu, ton avis là-dessus?
On va pas refaire ce débat. Parce que de toute façon, ça crève les yeux.
On va pas refaire ce débat, mais personne n'aurait mis Dembélé en neuf. Voilà. Personne.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà. Personne.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Personne à part le meilleur.
Manu.
Oui, Roland Courbis
me coupe l'herbe sous le pied.
Roland Courbis l'aurait pas fait.
Vas-y, Manu, je te laisse répondre.
Roland Courbis l'a pas fait.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Daniel.
C'est vrai.
Mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Parce que je pensais exactement à Dembélé.
J'ai aucun problème là-dessus.
C'est quand même sa création.
Mais c'est une création que tous les entraîneurs font.
Les changements de poste.
Tu veux qu'on fasse la liste des changements de poste des joueurs.
Non, mais quand tu recrutes,
on commence par qui? On commence par les années 80 ou lesquelles décennies?
Daniel, tu
fais tous. Mais non, quand on n'a pas de culture footballistique, c'est compliqué.
Et là, tu t'enfonces.
Il a essayé à maintes reprises de jouer avec des attaquants de pointe et il est revenu à chaque fois avec Dembélé.
Mais bien sûr. Mais il est le seul à l'avoir fait.
Alors, allez, les gars, les gars,
personne ne le voyait jouer en pointe.
On va laisser Jean-Louis.
Encore une fois. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que Courbis l'a fait? Et qu'il le disait ici.
Mais là, tu
c'est
parles
incroyable
de lui,
de rabaisser un homme.
Je suis pas en train de te parler de Roland, mais à son âme, hein, Roland.
Mais il l'a fait avant, il le disait sur RMC, que passons, c'était sa place.
Passons, Daniel.
Kevin, en fait, Roland a raison. Parce que Kevin, en fait, l'entraîneur qui parle bien de football, ça devient un intellectuel, et Kevin.
Mais non.
On a rien oublié de rester
les gens, Kevin. Là, tu dis n'importe quoi, Daniel.
Mais t'es malade.
Tu m'as dit? Tu dis n'importe quoi.
C'est la faute de Jean-Louis.
On a rien oublié, Jean-Louis, t'as rien à rajouter.
Je vais même pas te répondre, ça.
Tu reviens si t'as des infos blessées.
Ouais, ça marche.
Top, Daniel, Kevin, dans un instant, Polo Breitner sera avec nous. À tout de suite.
Tu te ridicules.
RMC jusqu'à minuit et demi.
L'afterfoot.
RMC jusqu'à minuit 30. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit, coaching dans l'after. Jean-Louis est parti voir s'il y a des blessés. Daniel Riolo est toujours là. Kevin Diaz est toujours là. Et Polo Breitner nous rejoint, il a écouté nos débats, Polo, depuis tout à l'heure. Salut Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Allemagne, Polo, on dit comme nous que ce soir on a vu un match qui est sans doute le meilleur de la saison, extraordinaire, et que les superlatifs s'enchaînent?
Oui, il y a beaucoup de ça. C'est d'ailleurs assez surprenant parce que quand le Bayern joue, en général, on se pose tout de suite la question, est-ce qu'il va se qualifier ou pas? Parce que le Bayern a quand même perdu ce soir, faut pas l'oublier. Et en fait, il s'en fiche complètement. J'ai adoré la phrase en français de Didier Hamann, 5-4, égalité. Et il y en avait une autre qui dit c'était du spectacle pur, et ça pose des questions parce que les experts, anciens joueurs de football et tout ça, se sont dit on n'a peut-être pas vu un match de football comme ça depuis 10 ans, 15 ans, et peut-être que ça inaugure une nouvelle page du football, parce que mais c'est sur l'analyse, parce que analyser une rencontre comme ce soir va, je pense, plus falloir prendre des codes de tennis avec break, des breaks, etc., que nous, les habitudes qu'on avait d'analyser les défenseurs, Manuel Neuer. Parce que Manuel Neuer, il peut rien ce soir. Il s'en prend 5 et il peut rien faire ce soir. Et Dembélé, il touche le poteau, et Guara, il fait un but extraordinaire, et c'est pareil pour différentes choses. À la rigueur, tu peux reprocher à la défense centrale du PSG de pas avoir fermé sur l'égalisation d'Olysée. Donc en fait, ce qui se passe ce soir, c'est assez extraordinaire, parce que personne ne parle du résultat, mais ils disent juste qu'ils ont vu deux équipes superbes, et on parle en Allemagne d'épicentre du football, qui n'est pas en première ligue. Et ça me semble important, parce que ça change beaucoup de choses. Une fois de plus, le spectacle n'est pas en première ligue, et il était à Paris ce soir. Qu'est-ce que ça va donner au match retour? Ça va être compliqué. Je vous ai écouté d'une oreille, je suis pas d'accord sur vous, surtout, parce que moi je me pose tout simplement la question, si vous lisez, mais sur la première occasion à la 19e, qu'est-ce qui se passe dans la rencontre? Il y a 2-0 et le match, pour moi, il est plié, quoi. La deuxième chose, sauf si on estime que le football aujourd'hui, on peut marquer toutes les 10 minutes, etc.
C'est ça en fait, Polo, c'est qu'on a des réflexes quand on regarde. Je trouve intéressant ce que tu dis sur ce qui est dit en Allemagne, et on l'a pas encore dit, mais on se rappelle quand même qu'à une époque, quand il y avait des matchs avec plein de buts, moi j'entendais certains consultants, il y en a plus maintenant qui disent ça, mais il y en avait des anciens joueurs qui disaient c'est pas un bon match parce que ça veut dire en fait qu'il y a eu plein d'erreurs.
Exactement.
Et c'est aujourd'hui plus personne n'oserait faire ce genre d'analyse parce que on est dans un football qui est tout spectacle, on est dans ce nouveau football fait d'intensité, pressing contre pressing avec des entraîneurs qui veulent attaquer. Et après tout, quand on regarde, il faut bien dire qu'on kiffe, on va pas dire le contraire de ce qu'on disait il y a une heure sur le côté extraordinaire du match. Mais en fait, même le 5-5, tu te souviens quand il y a eu le 5-5, le fameux 5-5
Lyon-Marseille,
il y avait pas mal de gens encore, ça se disait à l'époque, j'ai plus tellement la
tête. Oui, ils ont dit on n'a pas aimé ce match.
Ouais, voilà.
Je crois que le coach d'une des deux équipes l'avait dit d'ailleurs.
Qui disait ouais, mais ça veut dire qu'il y a plein d'erreurs et qu'en gros, les défenseurs, Kevin disait tout à l'heure, aujourd'hui les attaquants sont meilleurs que les défenseurs. Mais dans l'histoire, on a kiffé les grands défenseurs. C'est vrai qu'on a kiffé
ceux qui ont été sacrifiés lors du dernier quart de siècle, au nom du spectacle.
Faut pas
l'oublier, ça.
Voilà, et au-dessus, on a tout gommé parce qu'on se dit, maintenant les défenseurs, on a commencé par les latéraux. Quand on dit, ouais, mais ce latéral, il sait plus défendre. Et on dit, on s'en fout, puisque de toute façon, il contre-attaque et il apporte beaucoup offensivement. Et comme on est dans le tout spectacle, parce qu'on a peur que les gens regardent plus les matchs, et d'ailleurs, les gens les regardent de moins en moins les matchs. Donc on va aller vers ce football-là. Qu'est-ce que ça va donner quand on kiffe une soirée comme ça? On va pas faire, évidemment, qu'on est tous heureux. Mais est-ce que si on en voit toutes les semaines, ça sera la même chose? Est-ce
qu'on va considérer que les défenseurs sont tous des conférences de presse?
D'accord avec
en direct.
Ça, un football offensif, plaisant, la base du football?
Je pense que c'est difficile. Le foot, c'est un peu comme les religions. On peut discuter, mais on croit en ce qu'on croit, en fait. Il y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas de style de jeu qui est supérieur à un autre. Je pense que chaque passionné du foot peut trouver... Justement, c'est ça qui est bien dans le foot. Je vais en Angleterre, en deuxième division, et les gens, ils aiment les longs ballons, les duels, et ça se bat. Et ce sont des beaux matchs aussi. Et il y a des équipes qui font un catenaccio parfait, qui sont beaux à voir aussi. Mais par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en fait un clash de deux idées similaires. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Normalement, dans ce genre de situation, il y a une équipe qui se retire un petit peu, qui peut-être accepte que l'adversaire puisse imposer son jeu. Ça aurait pu être le PSG ou nous, et aucune équipe a accepté. Ça donne ce genre de match, en fait.
Voilà, Vincent Compagnon, en français, c'est la conférence de presse.
Ce mec est décidément au-dessus.
Je crois qu'il y a une traduction en allemand. Bon, on reviendra, Jimmy nous prévient quand il répond à une question.
J'ai bien aimé.
Vous êtes d'accord avec lui?
Ouais, on est d'accord avec lui, bien sûr. On l'a dit. De toute façon, il l'avait prévu, un polo. Il avait prévu un orage. On en a parlé tout à l'heure. On l'a eu, notre orage. Et avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, je sais pas quel joueur a dit 5-4 égalité. Mais pour moi, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est 5-4. C'est le football qui a gagné. 5-4, c'est le football moderne qui a gagné. Enfin.
Mais le problème, c'est d'analyser les rencontres. Tu vois, moi, le geste de la rencontre. Et peut-être la faute de la rencontre. La faute de la rencontre, c'est le PSG qui permet au Bayern de revenir de 5-2 à 5-4.
Je suis d'accord.
Pour moi, je sais pas.
Après, est-ce que c'est pas forcé?
C'est pas le Bayern qui va le chercher, le 5-4?
Je suis pas persuadé. Je sais. Non, mais moi, c'est peut-être mes anciennes façons d'analyser la rencontre, parce que encore une fois, si ce match-là préfigure le football de demain, va falloir très rapidement se mettre à la page de comment on voit le football.
Alors,
comment
dans ces cas-là, est-ce que je traduis ce que tu dis? Tu me dis si je me trompe. Est-ce que tu penses dans ce cas-là que quand il y a 5-2, le PSG peut également se dire on sort un attaquant, on met un milieu, on essaye de boucler la rencontre comme ça se faisait à une époque, en disant on préserve notre avantage. Mais comme en plus aujourd'hui tu n'as même plus la notion de but à l'extérieur, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que derrière le spectacle fantastique qu'on voit ce soir, s'il y a 1-0, c'est la même approche au retour. Alors que si tu avais le but à l'extérieur, on ne sait plus du tout. Dans le même,
il y a la qualité technique des joueurs.
Peut-être que les équipes ne jouent même pas de cette façon-là.
Mais il y a la qualité technique. Encore une fois, les buts du PSG ce soir, ils sont monstrueux. Tu peux mettre le meilleur gardien, tu peux même mettre trois gardiens, ça rentre quand même, quoi. Et le geste qui m'intéresse, parce que vous avez, je crois, rendu hommage à Harry Kane, mais l'ouverture d'Harry Kane pour Luis Diaz.
Ah, magnifique.
Je suis désolé, quoi. Et réduire Harry Kane à un neuf. Oui, c'est réduire Harry Kane à un neuf. C'est pour ça toujours en France on parle Olise. Enfin, ce que fait Harry Kane là, quand il défend, quand il c'est son ouverture ce soir et tout ça. Donc je suis extrêmement partagé parce qu'en fait
maintenant hein. le neuf devant machin, tous les postes ont été beaucoup bougé ces derniers temps. Dans leur le 10, c'est des postes qui ont beaucoup évolué. Le 9 aujourd'hui, alors, il devient meneur quasi.
Par contre, il y a un phénomène. Alors, je sais pas si c'est qu'en Allemagne qu'on voit ça, qui eux.
Vincent Compagnon, français à nouveau. Excuse-moi pour le on revient.
Tout parce que c'est mon rôle de pas accepter autre chose que la perfection. Mais. Je pense que quelqu'un m'avait dit hier ici dans la conférence de presse, on m'a posé la question, est-ce que vous pensez que, on m'a dit que Luis Enrique disait que peut-être le match serait différent aujourd'hui et que peut-être une équipe resterait un peu plus. Et je vous ai dit que j'y crois pas. Et donc, il y a une partie de ce match qui était prévisible aussi. Et après, c'est d'accepter les conséquences, les risques, mais aussi ce que ça peut nous donner. Et là, c'est des décisions qu'il faut prendre. Mais je pense pas qu'au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a que les 5 buts qu'on a encaissés qui sont matière à discuter. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu des occasions qu'on n'a pas marquées. Et à la maison, on doit essayer de capitaliser là-dessus. Et puis on doit essayer bien sûr de faire en sorte qu'on donne rien à l'adversaire. Un but, on peut déjà de toute façon éliminer, c'est le pénalty. Je veux dire, chacun, je sais que les règles changent chaque année sur la main. Mais que le ballon soit tiré à cette distance, touche d'abord le corps, ensuite la main, et puis on donne un penalty là-dessus. Là, par exemple, je suis pas d'accord. Mais pour le reste, c'est sûr qu'il y a amélioré toujours.
Bon. Ouais, enfin, hey, voilà. le penalty de Diaz, il est très sévère aussi pour Pacho. Il est très généreux. Faut essayer d'être sérieux. Ouais. Non, et puis il y a quelque chose qui m'intéresse. Je vous parle souvent, moi, de la circulation de la balle des équipes. Et je suis désolé. Moi, je préfère la circulation de la balle du PSG à celle du Bayern. Aussi parce que le Bayern passe son temps. En Allemagne, on fait beaucoup ça. Ça a le don de m'agacer. Ça part évidemment toujours du gardien en ce moment. Donc, on recherche toujours Manuel Neuer ou un autre gardien. Et puis, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de balles qui sont horizontales, pas verticales.
Oui, mais c'est pour attirer, Polo.
Mais justement, les mecs, moi, quand je vois le football espagnol, je trouve qu'à ce niveau-là, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'ils jouent tout de suite par devant et non pas latéralement. Je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là.
Mais ce soir, ça peut ressembler au Liverpool, grande époque de Klopp.
C'est de la transition pure.
Ça va très vite. Ce que faisait Klopp, d'accepter parfois d'être bas et de verticaliser très très vite avec des impact players, quand t'avais Salah ou Sadio Mané, et pour le coup t'avais également Firmino qui était le 9 façon Dembélé, mais bon ça n'a jamais existé avant Dembélé, mais bon je vais quand même le souligner quand même, hein, que d'autres ont fait ça, et ça verticalisait très vite, ça percutait. Par exemple il y avait eu un chef d'œuvre Liverpool Manchester City qui doit être un quart de Ligue des Champions, je crois, où il y a 3-0 au match aller, c'était extrêmement tranchant. Dès la récupération, ça explosait très vite. Le PSG a la capacité à faire un peu les deux. Ils sont capables de garder le ballon. On le voit en championnat, notamment contre des équipes qui dominent. Et en Coupe d'Europe, ils sont capables de se transformer en équipe de transition qui va très très vite.
Aujourd'hui, il y a deux footballs. C'est soit tu essaies d'imposer quelque chose à ton adversaire, c'est ce qu'a essayé de faire le Bayern ou ce que fait le PSG majoritairement. Et soit tu as un football où tu vas faire un peu plus d'opposition et donc tu vas essayer de faire mal à ton adversaire dès que tu récupères. Les supporters parisiens me permettront, je pense qu'ils ont été un peu droit au but aujourd'hui et ils ont récupéré des ballons et en deux passes ils essayaient d'être dans les 30 derniers mètres. Et ça
mais les deux équipes se sont aussi beaucoup surveillées quand même, hein, parce que le nombre de kilomètres courus est pas effarant. Hein. Il est loin des standards. Enfin, 110, 115, le Bayern il est toujours à 120 et beaucoup plus. Hein. 110, c'est très faible.
Oh là, ils sont à 120 le Bayern en quoi? En Ligue des Champions? Pas en championnat. Pas possible.
Ah si, en championnat, ils sont déjà beaucoup plus.
Quasiment, il n'y a pas besoin.
Quasiment toutes les équipes de Bundesliga sont à 120 et on est en train de frôler parfois les 130. On court à 126, 127.
Oh, attends, il les compte comment
et
là
ce soir? Bah écoute, après
il y a les 5 changements aussi qui apportent énormément de fraîcheur.
5 changements, ça permet à une équipe d'être performante athlétiquement.
Bon les gars, attention, Clément est là, supporter du Bayern.
Je te dis pas la Coupe du Monde quand tu feras les cooling break et les mi-temps d'une demi-heure comme c'est prévu en finale.
Bonsoir.
Ça peut peut-être passer là.
Bon, bien.
Oui, ça va et toi?
Salut. Bah écoutez, ça va. On a passé un super moment ce soir, hein, je pense. Hein.
Je pense qu'en effet, on peut le
même
dire.
Même dans la défaite, on a passé un super moment, moi je vous le dis.
Bah est-ce que toi aussi tu considères que c'est défaite match nul comme l'a dit Aman? Et que tout est encore possible?
Quand on attaque la seconde période et que là on a feu d'artifice pendant 10 minutes, je suis devant l'écran du bar et je me dis, on va se faire déboîter ce soir, genre vraiment. Et on est revenu, comme on arrive à revenir depuis ces derniers week-ends en Bundesliga, on ne veut pas perdre, on ne veut pas se faire dominer, on ne veut pas perdre tout simplement. Et 5-4, oui, c'est quasiment match nul. Malgré le fait que Paris, je suis persuadé qu'à l'Allianz Arena, ils ne vont pas se laisser faire. On a la maison certes. Mais ça va être le même match.
Il y a quand même un truc, les gars. Bon, alors là, on disait tout à l'heure, ça fait 31 ans que le Bayern n'avait pas pris 5 buts en Ligue des Champions. Mais ces derniers temps, ils en ont pris 4 en championnat. Il n'y a pas si longtemps.
3 aussi.
Polo, c'est pas une défense de fou quand même.
Et dans les transitions,
c'est l'équipe B. Mais c'est l'équipe B qui joue, Gilbert. Le match important, c'est la semaine dernière, c'était jeudi ou mercredi, je sais plus, quand ils ont joué à Leverkusen. Et là, il y a 2-0.
Ils ont pris des buts, tu veux dire, c'était.
Sauf que Polo, si tu me permets, dans le match contre le Real, le match retour, si on a cru à un moment que la folie pouvait s'emparer de la rencontre et que le Real pouvait faire un truc de fou ce soir-là, c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup souffert face aux transitions du Real. Et quand Vinicius portait un ballon ou quand Mbappé est parti, quand ils ont commencé à marquer, c'est oula, chaque fois qu'ils récupèrent, s'ils balancent vite sur les attaquants, ils vont souffrir. Contre une équipe qui est capable de le faire encore mieux comme le PSG, attention, ce but d'avance, le PSG
le
peut,
Bayern,
le faire, peut le faire fructifier.
Pour moi, c'est pas un problème défensif, c'est un problème que le Bayern laisse ses adversaires en vie. Encore une fois, ce soir, Olise met le deuxième but ce soir. Je pense qu'on parle pas du tout de la même rencontre.
Après, Clément, vas-y.
Je disais, en première partie de période, on doit tuer le match. Dans les 15 premières minutes, on a quand même le ballon, on propose de bonnes choses.
Oui, c'est ce que vient de dire Polo.
Voilà, donc moi je suis totalement d'accord avec Polo.
Après, moi je ne sais pas si on tue les matchs aujourd'hui, c'est ça le souci. Ça me manque ça comme analyse. Je ne sais pas de quelle façon on tue les matchs.
Je suis d'accord avec Daniel, aujourd'hui tu vois quand même beaucoup de matchs.
Clément, je te remercie. Il faut qu'on arrête parce qu'on ne veut pas rater la conférence de presse de Luis Enrique. Donc bougez pas les gars, on vient dans moins d'une minute pour ne pas rater le début de la conférence de presse de Luis Enrique et on continue le débat ensemble. À tout de suite, il nous reste un quart d'heure avant les nuits du 15 enchaîné.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 15, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Paulo Breitner est également avec nous. On reçoit énormément de messages WhatsApp ce soir et surtout de fans de foot qui semblent s'être réconciliés avec avec notre sport numéro 1. Je te
le dis, Gilbert, c'est le plus beau match des 15 dernières années.
Non mais c'est assez marrant parce qu'on était on parlait quand même ces dernières semaines d'un recul du foot, d'un manque d'intérêt, de matchs un peu soporifiques dans notre championnat entre autres.
Mais tu vas pas les créer.
Il y avait un petit apéro sympa il y a 15 jours avec Strasbourg-Mayence.
Il y avait Real-Bayern,
c'était pas mal. C'est vrai,
la vérité, c'est que c'est beaucoup en Ligue des Champions. Et ce qu'en championnat, t'en as de moins en moins. Donc, bah, évidemment, ça va toujours aller dans le sens de la compétition phare. Et oui, on le sait que le gratin, c'est là. Mais cette année, je veux bien, hein, mais nous, on le voit du balcon français. Mais le Sporting Bodø/Glimt, il était kiffant aussi. Hein.
C'est vrai. Des petites questions. Hein,
on va faire vite.
Vous pouvez comprendre ça, non?
Okay. Ah, il est fatigué, il veut pas, il veut pas.
Bonsoir, coach, tout au fond. Arthur Perrault, RMC. Je suis là, tout au fond. Justement, tout le monde s'accorde à dire que ce soir, on a vécu un match historique de Ligue des Champions. Et pour avoir croisé quelques supporters, eux disent tous qu'ils vont avoir du mal à s'endormir ce soir. Est-ce que vous partagez ces deux avis? Merci.
C'est. Je pense ça a été un match très différent avec des équipes d'un niveau incroyable et je pense qu'on a montré les deux équipes quel type de football nous sommes et ce que je peux dire que je suis tellement fatigué. Si je suis fatigué, je n'ai pas couru un kilomètre comme les joueurs doivent être. Et le match a eu de tout. Parce que je pense qu'ils ont démarré le match meilleur que nous. Ils ont marqué le but et ils ont créé beaucoup de chances. Et après, on a changé le match de manière difficile, mais on a surmonté cet résultat. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on a démarré cette deuxième mi-temps meilleur que et on a marqué trois buts dans un stade apothéosique et après on a concédé des buts. Ça a été un match tout le temps avec différentes situations et, je pense que c'est un moment pour faire des félicitations à les deux équipes et à tout le monde qui a été dans le stade.
Bon, encore une réponse de Luis Enrique qui effectivement semble fatigué.
C'est parfait comme analyse.
Vous allez aller à Munich pour gagner, c'est toujours la philosophie du Paris Saint-Germain. Comment vous voyez ce match retour?
Je suis tellement fatigué que je dois parler de les matchs dans une semaine. Et il faut analyser ce match. Et bien sûr qu'il y a aspects qu'on peut améliorer. Et quand tu fasses une équipe avec cette qualité individuelle et collective, c'est très difficile à... Je pense qu'on a défendu très bien, on a amélioré notre niveau défensif, mais on a concédé 4 buts, et c'est tellement différent à la normalité des matchs que tu joues, que il faut analyser ce match et se reposer, récupérer pour penser à les matchs de championnat. Premier, en premier lieu, et après, on va voir. Mais je pense que ce sera pareil, là, ce match, les matchs retour.
Voilà, je crois qu'il a envie d'aller se coucher.
Ça a très bien défendu, Kevin. T'es d'accord avec la deuxième partie de son analyse?
Alors, il a dit un truc qui est quand même extraordinaire. C'est la première fois que j'entends un entraîneur dire que son équipe a bien défendu, mais qu'elle a pris 4 buts. Et c'est un peu ce qu'a dit Vincent Kompany. C'est-à-dire que s'ils avaient mal défendu, je pense qu'il peut en prendre 7 ou 8. Et le truc, c'est que ils n'ont pas toujours bien défendu.
Réponse sur le Warren Zahir, les coachings, c'est intéressant.
Ça a été très différent à la normalité. Et quand tu joues dans cette intensité, je pense que les joueurs qui ont entré ont apporté beaucoup. Et c'est simplement la capacité que nous avons en tant qu'équipe de gérer les minutes. Et je pense que Fabien a entré très bien, Seni Mayulu aussi, et Braldi Barcola. C'est important pour nous de profiter de les joueurs qui sont dans les banques. Et bah, ça a été le meilleur moment du match, mais je m'ai raté parce que j'ai préféré de non penser que ça a été un match avec 5-2 parce que la qualité de cette équipe de Bayern Munich, c'est très clair. La intensité du match pendant tous les moments a été exceptionnelle. Bah, on a gagné le match. C'est clair qu'on est content, très content. Mais après les 5-2, tu penses que tu peux avoir un meilleur résultat. Mais je pense qu'on a mérité gagner ce match. On a mérité faire match nul. Et on a mérité aussi de perdre le match.
Bah, il est excellent.
Bonsoir.
Voilà pour Luis Enrique.
Bah, il est excellent dans sa dernière phrase. Parce que, alors là, je suis pas d'accord avec lui sur le fait que.
Il pourrait dire n'importe quoi, Kevin, il est à genoux.
Non, pas du tout.
Et Compagnie, c'était bien ou pas l'analyse?
C'est excellent aussi.
Compagnie,
c'est tout à fait
Clément sur WhatsApp.
Vestimentaire et.
Clément sur WhatsApp tout dit. Compagnie a dit, je cite, c'était le clash de deux idées similaires. On vient donc enfin de comprendre la définition de Big Bang de Daniel.
En revanche, t'es d'accord sur la bonne entrée de Fabien Ruiz et non, de Barcola.
Ben tu vois, c'est ça ton problème, c'est que tu me laisses pas parler. J'allais dire que je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que Fabien Ruiz soit bien rentré. Au contraire, il a fait plonger l'équipe. Maintenant, de le faire rentrer dans un tel match, pourquoi pas? Même si je pense pas qu'il fallait sortir Warren Zaïre-Emery et Barcola, non, il a pas été transcendant non plus. Donc là, je pense que là, il fait du management. Et comme tu le sais, c'est pas forcément du mensonge, ça s'appelle de la communication. Voilà. T'es capable aussi d'en faire, on en fait tous. On dit pas toujours tout la vérité, je pense qu'il pense le fait de dire qu'il aurait pu gagner, il a gagné, il aurait pu faire match nul et il aurait même pu perdre.
Ça, y a pas de problème, je suis d'accord avec ça.
Et ça, c'est beau de le dire quand même.
Oui. Alors, revenons au Bayern avec Polo, parce que là, j'ai Florian au 32-16 qui est supporter du Bayern et qui veut revenir lui aussi sur des histoires de choix et de coaching. Salut Florian.
Oui, salut.
Salut Florian, on t'écoute.
Oui, bonsoir. Du coup, je voulais poser une question parce que moi, je suis pas évidemment, je suis pas professionnel. Je vois ça avec mes yeux de supporter. C'est Philippe Lam qui m'a fait aimer le foot avec mon père, et surtout le Bayern. Donc depuis 2002-2003, et j'ai 38 ans aujourd'hui. Mais ce soir, j'ai une question pour Polo. En fait, j'arrive pas à comprendre pour quelle raison est-ce que du coup le Compagnie a remplacé Davis malgré la semi-erreur qui pour moi n'en est pas une. Pour quelle raison est-ce qu'il l'a fait remplacer par Laimer, même si Laimer est forcément plus physique, plus brut, plus explosif que Davis. Moi, je suis un gros fan.
T'as tout dit en fait.
Quoi?
T'as donné quasiment la réponse, non?
Ah claro. Ouais, bon bah du coup je voulais pas l'entendre. Toute la semaine j'ai porté le maillot de Davis parce que Davis pour moi c'est l'un de mes joueurs préférés depuis que je l'ai découvert au Bayern parce que je le connaissais pas avant et là en fait quand il l'a remplacé par Laimer je j'ai pas compris mais après moi je suis un footix, je suis un supporter du Bayern mais je suis pas comme vous, je suis pas un professionnel.
Polo va peut-être t'éclairer alors vas-y.
Bon il y a plusieurs choses. Déjà, le choix de titulariser Davis était une surprise puisqu'il a vu sa blessure, sa rechute, excepté lorsqu'il y avait le turnover, il n'était jamais titulaire. Donc, par contre, après, avant la rencontre, on a appris, 5 minutes avant la rencontre, on a appris que c'était un choix de Compagnie de titulariser Davis pour sa vitesse par rapport à un Laimer. Laimer quand même qui joue à tous les postes et je suis pas persuadé qu'il soit exceptionnel au poste d'arrière gauche. À la rigueur, on aurait pu se poser la question de Stanisic et Laimer et si ma mémoire me fait pas défaut, au mois de novembre, Laimer était à droite et Stanisic était à gauche. Pourquoi est-ce qu'il a changé à la mi-temps? Je pense qu'il faut pas oublier que Davis revient de blessure et il a dû estimer que côté Doué c'était compliqué avec Hakimi et qu'il préfère mettre Laimer. Et d'ailleurs, je pense que Laimer a fait le boulot en seconde période. Mais voilà, enfin, pour moi, ça se joue à la marge, c'est-à-dire. Mais par contre, c'est des profils de joueurs très différents. Dans l'absolu, Davis, pour moi, est évidemment le latéral gauche. Sauf que le Davis que tu as connu, je sais plus, il est arrivé quand au Bayern en 2019. On l'a pas vu depuis quelques temps, quand même. Donc c'est ça. Et ça a fonctionné avec Laimer. C'est un choix qu'il a fait. Moi, ça peut être que la question de la vitesse, en fait, avec Hakimi, quoi. Et de mettre la pression sur le côté droit du PSG avec Doué et Hakimi. Et le fait de le faire rentrer à la mi-temps m'a pas surpris. Est-ce qu'il avait pris un coup sur la caboche avec le penalty accordé, etc. Est-ce que on estimait qu'il était en difficulté sur le côté gauche? Moi, je l'ai pas trouvé spécialement plus en difficulté que Stanisic, par exemple, face à Kvara, quoi.
Voilà, Florian, pour ta réponse. Comment tu vois le retour, Florian?
Ah, je suis confiant. Bon. Enfin, je veux pas me porter la poisse. Du coup, même si là, clairement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que j'ai pas vu un match pareil où j'ai pas été autant excité dans le sud de France. Je dirais, j'étais en fusion. j'étais chaud braise, mais effectivement, je suis quand même en confiance dans le sens où, franchement, ce qu'on a montré, ce qu'on a fait ce soir. Ça m'a rassuré. On était en difficulté pendant une petite partie et on a su revenir bien comme il fallait et malgré évidemment les erreurs du PSG. Franchement, à la maison, je suis assez confiant.
C'est quand même une des premières fois de l'histoire où j'ai l'impression que les supporters des deux équipes sont ravis, alors qu'il y en a une qui a gagné et l'autre qui a perdu.
C'est vrai.
Et même les supporters nôtres sont ravis, tout le monde est ravi. C'est le plus grand match de l'histoire du foot.
En fait, il faudrait savoir qui est finalement le plus confiant.
T'es confiant, toi?
Alors moi, c'est pas important ce que je pense. Ce qui est important, c'est ce que disaient les journalistes allemands et les experts avant la rencontre. Ils ont tous dit que le PSG allait l'emporter avec un but d'écart et à la fin de la saison, c'est le Bayern qui soulèvera la coupe.
Ah bah écoute, on verra. Hein. C'est possible.
Alors on me dit la dernière fois que le PSG était à la Munich, ils en ont mis 5, mais c'était pas contre le Bayern.
Je cherchais quand ça.
C'était la finale.
C'est vrai. Ouais.
Bon, bah Paul, on a fait le tour. Rien à rajouter.
Ouais, on va attendre.
Ils jouent contre qui, Bayern, ce week-end?
Je pense que ce week-end, les matchs du Bayern et du PSG sont complets.
Ils sont à domicile et qui c'est qui joue? À Heidenheim, je crois, non? C'est pas ça?
Je sais bien ce que je disais. Je pense que les matchs du week-end, on s'en fout. On s'en fout. Je sais même pas.
Le PSG reçoit Lorient samedi à 17h.
Heidenheim, c'est bien ça. 17h.
Oh!
Je pense que ça va revendre de la place.
Il revient du stade.
Oui.
Julien Cazard.
T'as revendu PSG Lorient?
Est-ce que c'est le plus grand match du football de ces dernières années, comme l'a dit Kevin?
Non. Mais c'est un très bon match, c'est le match de l'année, peut-être. Déjà. Non, mais moi, je sais pas vous, mais je suis crevé.
C'est comme Cédric, il était fatigué.
Non, je suis sorti du stade, j'avais des crampes, mec. J'ai pas bougé. Ça n'a aucun sens. C'est possible d'être fatigué? De nerveusement,
ouais,
à ce point
possible, bien sûr.
Ah, j'étais cuit, moi.
Il y a plein de matchs où j'ai fini après, j'étais mort, là, juste à regarder.
Ah non, mais là, j'étais lessivé, vraiment. Vraiment, je sais pas comment ils ont fait, les mecs.
Pourquoi t'as le nez tout rouge, là? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est l'alcool, ça, c'est juste l'alcool. Non, même pas. Même pas, je pense que je suis passé.
Non, c'est un coup de soleil, parce que c'est un coup de soleil.
Un petit coup de soleil. Il a fait l'Amérique.
Ça a joué à la pétanque en Belgique ce week-end.
Exactement. T'as tout compris.
Et la boule dans l'autre.
Bien sûr. Et le boulet liégeois dans la troisième. Oui.
Tu vas tenir l'émission quand même.
Non, mais j'ai pas bu, hein, je te rassure. Hein. Non, je suis au top. Je suis juste fatigué. Faut que je me remette de ce match.
Très bien.
Faut que je me remette.
Merci, Polo. À très vite. Kevin, merci. Daniel également. Demain soir, on sera là dès la fin de l'autre demi-finale. Donc, entre l'Atlético et Arsenal, priori, tout le monde s'en fout de ce match.
Ah non, mais c'est la finale de l'Europa League. C'est ça.
Bon, on sera quand même là après le match demain soir. Bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à 12h30. L'After Foot.